Chapitre 17. Martin apprit à faire beaucoup de choses. Au cours de la première semaine, Joe et lui livrèrent 200 chemises en un après-midi. Joe maniait la tuileuse, une sorte de presse artisanale avec laquelle il repassait les empiècements et les parements, puis lustrait les plastrons. Dès que c'était fait, il lançait la chemise sur un filet où Martin l'accueillait pour achever le travail en repassant les parties non amidonnées. C'était une besogne fastidieuse, effectuée à une cadence exténuante. Sous les vastes vérandas de l'hôtel, des hommes et des femmes en tenue légère profitaient de la douceur de vivre en buvant des boissons glacées. Mais, dans la blanchisserie, l'air était étouffant. L'énorme fourneau dégageait une chaleur infernale et les fers soulevaient des nuages de vapeur en passant sur le linge humide. Ces fers étaient beaucoup plus chauds que ceux des ménagères. Ici, le test du doigt humide n'était pas de mise. Pour jauger leur température, il les approchait de leurs joues et appréciait le juste degré par quelque mystérieux processus mental que Martin admirait sans le comprendre. Quand le fer était trop chaud, il le trempait dans l'eau froide en le tenant au bout d'une tige de métal. Il fallait avoir un jugement très sûr. Une demi-seconde d'immersion en trop et tout était à refaire. Martin s'émerveillait de la précision instinctive qu'il avait acquise, aussi rigoureuse qu'une mécanique. Mais il n'avait guère le temps de s'émerveiller. Tout son être était accaparé par son travail. Transformé en automate humain, il concentrait toute son intelligence sur ses gestes et il n'y avait plus de place dans son cerveau pour les grands problèmes de l'univers. Les vastes couloirs de son esprit étaient hermétiquement fermés. La chambre d'écho de son âme était comme une tourelle de commandement qui transmettait des ordres à son bras, à ses épaules, à ses 10 doigts, qui réglait à la ligne près la trajectoire fumante des fers le long des manches, des dos et des pans. À peine une chemise était-elle achevée et déposée sans un faux pli sur le présentoir, qu'il en prenait une autre, et cela sans interruption, des heures durant, pendant que le monde extérieur s'engourdissait sous le soleil californien. Mais dans la blanchisserie surchauffée, il n'était pas question de s'engourdir. Les clients de l'hôtel qui prenaient le frais sous les vérandas avaient besoin de linge propre. Martin ruisselait de sueur. Il buvait d'énormes quantités d'eau, presque aussitôt évacuées par les pores de sa peau. En mer, sauf rares exceptions, son travail ne l'avait jamais empêché de rester en communion avec lui-même. Le capitaine ne régnait que sur son emploi du temps, tandis que le patron de l'hôtel régnait aussi sur ses pensées. Celles-ci, entièrement accaparées par des besognes qui lui rongeaient les nerfs, ne lui appartenaient plus. Il ne pensait à rien. Il en oubliait même son amour pour Ruth. Elle n'existait plus, puisqu'il n'avait pas le temps de se souvenir d'elle. Il devait attendre le soir, lorsqu'il se glissait dans son lit ou le matin au breakfast, pour qu'elle se rappelât à lui par de fugitives visions. « C'est l'enfer, hein ?» lui dit Joe un jour. Martin acquiesça, mais avec un secret agacement. Il n'aimait pas les commentaires inutiles. Pendant le travail, on ne parlait pas. Rompre le silence, c'était rompre la cadence. La remarque de Joe en le distrayant l'avait obligé à donner deux coups de fer au lieu d'un, à la suite d'un faux mouvement. Le vendredi matin, ils commencèrent par une grande lessive. Deux fois par semaine, ils devaient laver le linge de l'hôtel, les draps, les têtes d'oreiller, les alaises, les nappes et les serviettes. Cela fait, ils attaquèrent les amidonnages de fantaisie. C'était un travail lent, fastidieux et délicat, que Martin eut quelque mal à maîtriser au début. Il fallait pourtant apprendre vite, car la moindre erreur était fatale. « Tu vois ce truc-là ? » lui dit Joe en lui montrant une combinaison si vaporeuse qu'il eût pu la tasser tout entière dans le creux de sa main. « Tu déchires ça, et on te retient $20 sur ton salaire. » Martin ne déchira rien. Il s'appliqua à relâcher sa tension musculaire, mais sa tension nerveuse ne cessait d'augmenter, et il compatissait avec Joe, en l'entendant blasphémer et maudire toutes ces jolies choses que portent les femmes qui ne font pas leur repassage elles-mêmes. L'amidonnage de fantaisie était le cauchemar de Martin, celui de Joe aussi. C'était ces petits fignolages qui leur volaient leurs minutes durement gagnées. Ils s'échinèrent dessus toute la journée. À 7 heures du soir, ils s'interrompirent pour passer le linge de l'hôtel au séchoir. À 22 heures, pendant que les clients dormaient, les deux blanchisseurs amidonnaient encore. Ils peinèrent ainsi jusqu'à minuit, jusqu'à 1 heure, jusqu'à 2 heures. Quand sonna la demie de 2 heures, ils baissèrent les bras. La série d'amidonnage ne fut terminée que le samedi matin, mais à 3 heures de l'après-midi, le travail de la semaine était fini. Après ça, tu vas quand même te taper 70 miles à Bacon jusqu'à Auckland, dit Joe, comme il s'essayait sur les marches pour fumer une cigarette. J'ai pas le choix, répondit Martin. C'est pour une fille? Non, pour économiser les $2.50 du billet de train. Je veux changer quelques livres à la bibliothèque. Ça peut se faire par la poste, un colis express et 25 cents. Martin réfléchit. Comme ça, tu pourras te reposer demain, insista l'autre. T'en as bien besoin, et moi aussi. Je suis rétamé. Il en avait l'air. Lui, le monstre de travail, le lutteur infatigable, ce dévoreur de minutes et de secondes qui renversait tous les obstacles, ce moteur humain vrombissant, il était à présent à la limite de l'évanouissement. Abattu, hagard, les traits creusés, il tirait sur sa cigarette d'un air absent et parlait d'une voix éteinte. Toute son énergie l'avait quitté. Il avait le triomphe maussade. Et la semaine prochaine, on remet ça, dit-il tristement. Et qu'est-ce qu'on y gagnera, hein? Des fois, j'envie les clochards. Ils travaillent pas et ils survivent quand même. Créneau. Je viderais bien un boc, mais j'ai pas le courage de descendre au village pour m'en payer. Non, crois-moi, reste là et envoie tes bouquins par la poste. Ce serait trop bête. Mais qu'est-ce que je vais faire ici pendant toute la journée de dimanche? Te reposer? Tu sais même pas à quel point t'es fatigué. Moi, le dimanche, je suis tellement crevé que je peux même pas lire le journal. J'ai été malade une fois. La typhoïde. 2 mois et demi d'hôpital. 2 mois et demi sans travailler, t'imagines ça? Ah, la belle vie. Il en rêvait encore. Ah, la belle vie, répéta-t-il au bout d'une minute. Martin prit un bain. Le chef blanchisseur avait disparu entre-temps, sans doute pour aller boire son boc de bière, se dit Martin, qui ne se sentait pas la force de marcher jusqu'au village. Un demi-mile à pied, c'était trop pour lui. Il préféra retirer ses souliers et s'étendre sur son lit pour réfléchir à la situation. Il n'ouvrit pas de livre. Il resta simplement couché, dans une sorte d'hébétude, sans penser à rien jusqu'au souper. Joe ne vint pas manger. En entendant le jardinier expliquer qu'il était probablement en train de se râper les coudes sur les lattes du bar, Martin monta se coucher sans l'attendre. À son réveil, le lendemain, il estima qu'il s'était suffisamment reposé et, comme Joe n'était toujours pas rentré, il se procura un journal du dimanche et alla s'étendre à l'ombre des arbres. Il ne vit pas le temps passer. Il n'avait pas dormi, personne ne l'avait dérangé et cependant, il n'avait toujours pas fini son journal à la fin de la matinée. Quand il voulut reprendre sa lecture après le déjeuner, il s'endormit dessus. Ainsi s'écoula le dimanche. Le lundi matin, il travailla d'arrache-pied, triant le linge pendant que Joe, une serviette nouée autour de la tête, mettait la lessiveuse en marche et préparait la poudre de savon en geignant et en jurant. « C'est plus fort que moi, » expliqua-t-il. « Le samedi soir, il faut que je boive. » Une autre semaine passa. La grande bataille se poursuivit, nuit après nuit, sous les lumières électriques, jusqu'à la délivrance du samedi après-midi. À 15 heures tapantes, Joe savoura son petit moment de triomphe hebdomadaire et mit le cap sur le village pour oublier. Le dimanche de Martin fut semblable au précédent. Il dormit à l'ombre des arbres, feuilleta négligemment un journal et passa de longues heures couché sur le dos à ne rien faire, à ne penser à rien. Il était trop étourdi pour penser et commençait à se détester. Il était dégoûté de lui-même, il se sentait dégradé, profondément avili. Fini les grandes envolées lyriques. Son ambition s'était desséchée et avec elle, sa belle vitalité. Il était mort. Son âme était morte. Ce n'était plus qu'une bête, une bête de somme. Les rayons de soleil qui filtraient à travers les feuillages n'avaient plus aucune beauté à ses yeux. La voûte azurée du ciel ne l'inspirait plus. Les espaces infinis et les secrets du cosmos ne le tentaient plus. La vie était désespérément morne, stupide et sans saveur. Les miroirs visionnaires de son imagination étaient en berne, ses anciens fantasmes dépérissait dans une chambre de malade au volet clos. Il enviait Joe, avachi devant le comptoir de la taverne, le cerveau grouillant d'asticots, exultant comme seuls les poivreaux exultent, prodigieusement et sublimement ivre, oublieux du lendemain et des corvées de la semaine à venir. Une troisième semaine passa. Martin se haïssait et haïssait la vie. Il était oppressé par un sentiment d'échec. Les rédacteurs avaient eu raison de refuser sa prose. Il y voyait plus clair maintenant. Et se gaussait des rêves fous qu'il avait caressés. Ruth lui renvoya son chant de la mer par la poste. Il lut sa lettre avec apathie. Elle faisait de son mieux pour lui dire qu'elle aimait ses vers, qu'elle les trouvait bien tournés, mais elle ne savait pas mentir et la prudence de ses formules laissait aisément deviner le fond de sa pensée. Elle avait raison de ne pas être enthousiaste. Il n'eut qu'à relire ses poèmes pour s'en convaincre. Il se demanda ce qu'il avait en tête quand il les avait écrits. Ses audaces lui semblaient à présent grotesques. Ses licences poétiques étaient des monstruosités. Tout cela était absurde, irréel, invraisemblable. Il eut envie de brûler son champ de la mer dans la chaudière de la salle des machines. Puis se ravisa. À quoi bon? Ça n'en valait même pas la peine, c'était une fatigue inutile. Il gaspillait toute son énergie à blanchir le linge sale des autres et n'avait plus de force pour nettoyer sa propre vie. Il se promit de se ressaisir le dimanche suivant et de répondre à route. En vain. Après avoir pris son bain, le samedi après-midi, il comprit que le désir d'oublier était plus fort que sa résolution. « Je crois que je vais faire un tour au village pour voir si Joe tient le coup », se dit-il négligemment. Il savait bien qu'il se mentait à lui-même, mais n'avait pas le courage de se l'avouer. De toute façon, cela n'y eut rien changé. Il voulait oublier. Il descendit lentement vers le village, en sifflotant et en hâtant le pas imperceptiblement à l'approche du saloon. « Je croyais que t'étais un buveur d'eau », dit Joe en guise de salut. Martin n'essaya pas de se justifier. Il commanda du whisky et remplit son verre à ras-bord avant de passer la bouteille. « T'as l'intention de la regarder toute la nuit ?» dit-il d'un ton bourru à Joe qui contemplait distraitement la bouteille. Martin était pressé. Il vida son verre d'un trait et le remplit à nouveau. « Je veux bien t'attendre, » bougonna-t-il, « mais faut te dépêcher. » L'autre se dépêcha et ils burent ensemble. « C'est le boulot qui te fait ça, hein ?» demanda Joe. Martin refusa de discuter la question. « C'est l'enfer, je reconnais, » poursuivit Joe. « Mais quand même, ça me chiffonne de devoir repicoler, Marthe. Bon, ça finit toujours comme ça. » Martin continua de boire en silence, passant ses commandes sans desserrer les dents et terrifiant le barman, un jeune campagnard efféminé aux yeux bleu pâle et coiffé avec une raie au milieu. « C'est un scandale de nous faire trimer comme ça, » maugréait Joe. « Si je me cuitais pas, j'éclaterais, je foutrais le feu à leur baraque. La cuite, y a que ça qui les sauve, c'est moi qui te le dis. » Mais Martin ne répondait pas. Encore quelques verres, et son cerveau fut bientôt dévoré par la vermine de l'intoxication. Ah, c'était vivre, ça. C'était la première bouffée de vraie vie qu'il respirait depuis 3 semaines. Ses rêves renaissaient. Ses fantasmes jaillissaient de leur chambre noire et flamboyait de nouveau devant ses yeux éblouis. Son miroir intérieur redevenait net comme de l'argent poli, riche comme un livre d'images éternellement recommencé. Les elfes lui donnaient la main, les chimères tendaient leurs croupes. Il triomphait. Il essaya de raconter ses visions à Joe, mais Joe avait ses propres délires, toujours les mêmes, dans lesquels il se voyait propriétaire d'une grande blanchisserie à vapeur. « Et dans ma blanchisserie à moi, Marthe, » disait-il, « on fera pas travailler les gosses, ça je te le jure. Et il y aura plus personne au boulot après 18 heures, tu m'entends? Il y aura assez de machines et de main-d'œuvre pour finir à 1 heure chrétienne. Et tu sais quoi, Marthe? Je te nommerai sous-directeur de la boutique. Parole, voilà comment je vois le topo. J'arrête de boire, j'économise pendant 2 ans, j'économise et... » Martin se détourna, le laissant raconter ses projets au barman, jusqu'à ce que celui-ci fût appelé pour servir à boire à 2 fermiers qui venait d'entrer. Martin leur offrit la tournée et dispensa ses largesses aux tout venant, des garçons de ferme, un palefrenier, l'aide-jardinier de l'hôtel, le barman et le clochard furtif qui s'était faufilé comme une ombre et qui, comme une ombre, attendait au bout du comptoir.